Parole d'auteur. Parole d'auteur, Jeanne Vidot.
Décidément, on n'en a pas fini avec la Deuxième Guerre mondiale. L'occupation, la collaboration, la résistance, mais aussi les camps de réfugiés, puis de personnes dites indésirables, ont façonné, qu'on le veuille ou non, la France et l'Europe d'aujourd'hui. Qu'ils soient venus d'Espagne ou de Pologne, d'Italie ou d'Angleterre, et pour finir même des États-Unis, notre pays a été parcouru, habité, par des soldats et des réfugiés de tous bords qui ont laissé leurs empreintes, leurs amours et leur vie parfois. Aujourd'hui, nous accueillons Patricia Vigier autour de son livre « Il s'appelait Camille », paru aux éditions BOD. Avec elle, nous allons aborder la complexité des situations dans la Creuse occupée à partir d'une conversation entre une adolescente contemporaine, Capucine, et son arrière-grand-mère, Marguerite. Patricia Vigier, vous étiez jusqu'à il n'y a pas si longtemps professeure documentaliste au collège Chambéry à Villeneuve-d'Ornon, près de Bordeaux, et vous faites preuve d'une grande cohérence dans vos choix d'écriture. Puisque vous vous intéressez à l'histoire régionale en particulier, ainsi qu'à sa transmission. Comment la grande histoire impacte-t-elle nos histoires particulières, notamment celle des petites gens, qui n'auraient en général qu'une envie, c'est se tenir à l'écart et en paix. Vos livres s'adressent aux jeunes, que vous côtoyez tous les jours, je crois, mais aussi bien sûr aux adultes, car ni vos sujets ni votre style ne sont infantilisants. Avant d'aborder Camille, présentez-nous un bref rappel de vos autres ouvrages.
Alors bonjour Jeanne Vidot, merci pour cette invitation au micro de Radio Présence. Merci pour votre introduction parce que le rappel de l'histoire et des périodes de résistance, de lutte antifasciste et de présence des indésirables sur notre sol résonne d'une manière étrangement contemporaine à l'actualité qui est la nôtre.
Oui, on continue à avoir beaucoup d'indésirables de par le monde.
Voilà, on arrive toujours à en définir. Et donc, l'esprit de la résistance, finalement, est d'actualité. Alors, sur les romans que j'ai déjà publiés, j'aborde différentes thématiques. Alors, avec Les Dernières Reines, qui est coécrit avec Christophe Léon, nous avions campé une dystopie environnementale. Donc là, on s'attaquait au réchauffement climatique et donc on mettait en lumière des activistes du climat sur le continent africain, des lanceurs d'alerte. Avec L'évadé de Saint-Seurin, qui était le premier roman historique que j'ai écrit, là j'étais revenue sur une page de l'histoire bordelaise qui concerne la présence des libres de couleur, la communauté de ce qu'on appelle les libres de couleur, autrement dit ces personnes noires qui habitaient dans le quartier en particulier Saint-Seurin et qui, par différents cheminements, accédaient à la liberté et qui ont fait souche, qui ont fondé des familles, qui travaillaient à Bordeaux et dont on ne redécouvre l'existence que finalement depuis assez récemment, avec Nous renvoyer spécial, donc qui, comme Les Dernières Reines, est édité aux éditions du Muscadier. Là, je m'attachais au rôle qu'ont joué les jeunes dans la révolution syrienne et en suivant une bande de jeunes pendant plusieurs années. Voilà, je voulais rendre hommage au courage de cette jeunesse syrienne qui a lutté au prix de sa vie, pour beaucoup d'entre eux, pour faire advenir la démocratie et une Syrie plus libre et en tout cas débarrassée de Bachar el-Assad. Avec Stop Asian Hate, de nouveau coécrit avec Christophe Léon et toujours édité chez le Muscadier. Là, c'était juste après la crise de la Covid. Donc, on avait voulu s'intéresser au racisme anti-asiatique, qui n'est pas le racisme dont on parle le plus, mais qui fait néanmoins souffrir beaucoup de personnes. Et puis, donc, il y a eu Il s'appelait Camille. Et le dernier paru l'année dernière, Bobine et Popcorn, qui est écrit pour les un petit peu plus petits, toujours chez le Muscadier, et où là, je mets en scène des élèves qui sont scolarisés en Ulysse, donc porteurs de handicap, victimes de harcèlement et qui vont montrer comment par leur qualité et la solidarité, on peut enrayer cette spirale du harcèlement. Donc, en fait, le point commun entre tous ces romans, à chaque fois, on a des jeunes qui sont en lutte, qui sont un peu révoltés contre les injustices ou les travers de ce monde.
Alors là, c'est vrai que pour notre Camille, c'est un petit peu différent, puisque vous évoquez effectivement la lutte de ces jeunes hommes et aussi de la jeune fille qui était Marguerite à l'époque. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette complicité très forte, intergénérationnelle. On est vraiment dans... Enfin, il me semble que le cœur de l'ouvrage, c'est plutôt la transmission et l'histoire, plus que... Enfin, vous faites un état des lieux.
Oui. Alors, cette dimension de la transmission, elle est très importante. Et c'était un des moteurs qui m'avait donné envie d'écrire cette histoire. Moi, j'ai la chance d'avoir ma grand-mère encore, qui a plus de 101 ans aujourd'hui, qui est toujours en vie. Donc, mes enfants ont eu la chance de pouvoir l'interroger sur la période de la guerre, de pouvoir lui demander de raconter sa jeunesse. Et en plus, elle a accumulé une quantité de documents assez impressionnante. Donc, elle peut illustrer ces anecdotes par tout un tas de pièces authentiques. Mais ça n'est pas le cas de la majorité des adolescents d'aujourd'hui.
Bien sûr.
Donc je voulais qu'à travers ce roman et le personnage de Capucine, qui a en gros 13 ans, il puisse poser, avec toute la naïveté et la fraîcheur des adolescents d'aujourd'hui, les questions qu'il se pose sur « Dis mamie, c'était comment la guerre quand tu étais jeune ?» Et Marguerite leur répondrait.
Donc Marguerite doit beaucoup à votre grand-mère, si je comprends bien. Mais pas seulement, parce que vous allez nous expliquer un petit peu le point de départ de ce roman, la genèse, l'étincelle qui est un petit peu rocambolesque, je crois.
Oui, qui a provoqué vraiment
le déclic.
Le fait que, voilà, le déclic et la découverte de cette histoire que j'ignorais totalement. Donc effectivement, nous nous sommes installés dans le Limousin, dans une petite commune à l'entrée du plateau de Mille Vaches, et donc dans une très vieille maison qui a été conservée relativement dans son jus au fil des siècles. Et dans notre chambre, on a quand même voulu refaire la tapisserie, qui était très ancienne. Et en retirant les laits de tapisserie, nous avons découvert, médusé, que caché entre le lait de tapisserie et le mur, il y avait une grande affiche d'esthétique années 30, on va dire. Hein, « Condisciplina se defiende la Repubblica ». Alors aujourd'hui, bon, on a la chance d'avoir tout un tas d'outils sur Internet qui permettent de faire des recherches par image. Donc on retrouve assez facilement l'auteur de cette affiche, la date, 1937,
aussi.
Et le contexte. Bon, alors j'avais bien deviné qu'il s'agissait de la guerre d'Espagne, mais je ne voyais pas ce que ça venait faire au cœur du Limousin. Et donc c'était le bout du fil de la pelote qui ne demandait qu'à être dévidé pour découvrir que les camps de réfugiés espagnols, il n'y en avait pas que dans l'extrême sud du pays, il y en a eu jusque dans le Limousin, des camps de travailleurs étrangers, et il y en avait en particulier sur le plateau de Mille Vaches.
D'où l'arrivée de Camille.
Voilà, donc Camille est arrivée dans ma chambre comme ça un beau jour et m'a intriguée et j'ai voulu en savoir plus, et puis tout d'un coup je me suis dit, en fait j'habite rue des Maquisards, c'est peut-être pas un hasard. Sans vouloir faire de rime. donc voilà, tout ça avait du sens et demandait à être creusé, exploré. Et puis évidemment, c'était passionnant.
Quelles ont été vos sources ?
Alors les sources, là aussi sur Internet, on retrouve pas mal de
vous
documents.
Vous êtes documentaliste, vous ne fonctionnez pas qu'avec Internet.
Oui, voilà. Bon, on a un musée de la Résistance à Limoges qui est très intéressant. Il y en a un autre aussi à Peyrales-Château. Donc voilà, des ressources authentiques. Et puis bon, il y a des livres qui ont été écrits sur le sujet, notamment un dont, alors j'ai plus le titre en tête, mais qui recensait justement tous ces camps présent dans le Limousin, avec les petites nuances, camp de travail, camp d'internement, leur localisation, la durée pendant laquelle ils ont été ouverts. J'ai été sur les sites de certains d'entre eux. À Saint-Paul-des-Jaux, par exemple, il reste deux baraques de bois.
Qui sont mises en valeur ou pas
du tout? Oui, avec un petit panneau explicatif. Oui, tout à fait. Et puis à Guéret aussi, au sud de Guéret, il y a un camp de travailleurs italiens, alors qui datait du début des années 30, celui-ci. Et donc ce sont des réfugiés italiens qui ont construit par exemple l'hôtel de ville de Guéret. Et c'est des baraquements qui ont été habités jusque dans les années 80.
D'accord.
Et quand on sait le climat de la Creuse et quand on voit ces baraques de bois avec leurs petites fenêtres et les toits en tôle ondulée, etc., on se dit que bon, les conditions de vie devaient être assez terribles. Donc,
vous dites qu'ils ont été occupés par des travailleurs?
Par des familles, oui.
D'accord, les mêmes familles qui étaient arrivées
Oui, voilà, et leurs descendants. Et...
D'accord. Il leur fallait beaucoup de courage, oui.
Oui.
Donc, à la fois des recherches livresques, puis des recherches aussi sur le terrain.
Voilà, oui, quel que soit le sujet. Alors, sauf pour nous, renvoyer spécial, évidemment, là, je ne suis pas allée en Syrie, donc j'ai procédé autrement. Mais pour l'évadé de Saint-Seurin, ou pour Il s'appelait Camille, ou, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, le dernier paru, Equinox, qui se passe au XVIIIe siècle, qui retrace la vie d'un corsaire morlésien qui est venu à Bordeaux et voilà, qui a passé 30 ans et qui a fait plein de choses fabuleuses. Donc j'aime bien aller, oui, sur les lieux de l'action, essayer de m'imprégner et puis chausser des sortes de lunettes virtuelles pour lire le paysage et les monuments autrement.
Oui, ça permet d'incarner le récit.
Voilà, oui. Moi, c'est ce que... Je trouve important, en particulier pour les jeunes, et peut-être parce que moi, étant adolescente, l'histoire me paraissait terriblement abstraite, et donc j'avais du mal à m'y intéresser. L'histoire me passionne à partir du moment où elle s'incarne dans des personnes et dans des lieux avec des destins individuels, alors qui ne sont pas forcément éclatants, mais qui ont néanmoins participé, chacun à leur mesure, à la grande histoire. Donc la grande histoire, c'est la somme de toutes les petites histoires.
Bien sûr. Alors peut-être pouvez-vous nous dire quelques mots sur Camille ?
Alors Camille, alors il commence par une chanson. Dans les chansons qui passent dans l'émission, j'ai choisi des titres qui sont contemporains de l'histoire parce que à cette époque-là, on chantait énormément. On écoutait beaucoup la radio. Voilà, la radio avait un rôle important. À la fois pour informer, pour faire passer des idées, et puis les chansons, alors vivaient, voyageaient, étaient réinterprétées. Il y avait la mode de ce qu'on appelle les goguettes, hein. On reprend un air existant sur lequel on recompose des histoires. Et ma grand-mère et mon grand-père en particulier chantaient beaucoup et écrivaient leurs petites chansons aussi. Voilà, donc là, Il s'appelait Camille, commence par la fin des vacances. Les arrière-petits-enfants sont venus passer leurs vacances chez leur arrière-grand-mère Marguerite dans la Creuse. Et avant de partir, ils entonnent une chanson. Et là, l'arrière-grand-mère a une réaction tout à fait inattendue et un peu déroutante, puisqu'elle leur demande d'arrêter tout de suite. Et Capucine comprend que ça la renvoie à un souvenir douloureux. Donc une fois les turbulents cousins-cousines repartis, elle qui est l'aînée, va aller interroger son arrière-grand-mère sur les motifs de cette réaction-là. Et donc c'est à partir de là que Marguerite va lui révéler un amour de jeunesse pour un jeune homme qui n'était pas grand-papa. Donc la Capucine est très étonnée, hein, on est toujours étonné que nos aïeux aient été amoureux finalement et vécu des aventures.
Une vie sentimentale, oui.
Voilà. Et donc ce jeune homme, Camille, était un réfugié espagnol.
Peut-être pouvons-nous d'ailleurs écouter la chanson que vous avez prévue pour nous.
Allez.
Qui parle des barricades.
Voilà, a las barricadas.
A las barricadas, coro de la libertad, canciones de no pasarán.
Sí.
Negras tormentas agitan los
parole d'auteur.
Donc nous venons d'écouter A las barricadas, Coro de la Libertad, Canciones del No Pasarán, donc une musique de révolutionnaire qui date de la guerre d'Espagne et c'est un chant républicain. Nous retrouvons Patricia Vigier pour son roman Il s'appelait Camille aux éditions BOD. Et donc vous avez commencé, Patricia Vigier, à nous raconter un petit peu le déroulé de votre roman. Marguerite va, à travers son histoire personnelle, décrire le quotidien des paysans creusois pendant la guerre et les différents statuts occupés plus ou moins volontairement par les différents personnages. Les travailleurs du STO, les réfugiés politiques ou économiques, les collaborateurs ou les résistants, c'est déjà un premier point. En effet, le frère de Marguerite, Armand, je crois, est parti en Allemagne, travailler en Allemagne.
Alors, René.
C'est René, pardon. Oui. René, Armand, non, il restait avec eux à la ferme.
Oui,
excusez-moi.
Ainsi que Pierre, le fils de...
Voilà, Pierre. René, pour l'instant, n'est pas vraiment intéressé par Marguerite, alors que Pierre...
Il est beaucoup plus.
Et Camille, plus tard, vont l'être beaucoup plus. Mais donc, René est plus âgé, je crois, et il est parti... Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce statut particulier ou en fait ce qui s'est passé, parce qu'il y en avait qui étaient des volontaires, d'autres ont été envoyés d'office. Certains avaient des congés. René va revenir justement à l'occasion d'un congé.
Oui, alors cette histoire, donc on resitue très très rapidement le contexte. Donc la France a capitulé, Pétain est arrivé au gouvernement, et donc les Allemands, dans les accords qui sont signés avec le régime de Vichy, stipulent que pour faire tourner l'économie allemande pendant que les jeunes Allemands sont sur les différents fronts, il faudra envoyer des jeunes Français travailler dans les fermes, dans les usines en Allemagne. Alors au départ, ça s'appelle pas le STO, ça va s'appeler la relève, avec déjà une sorte de chantage. Si vous nous envoyez des ouvriers, on libérera des prisonniers qui, eux, pourront revenir. Donc ça crée une ambiance dans les villages et dans les quartiers des villes assez particulière, puisque d'une famille à l'autre, ceux qui avaient un fils prisonnier en Allemagne regardaient d'un œil mauvais les voisins qui avaient toujours le leur et qui ne voulaient pas l'envoyer. Et puis en disant, attends, si tu l'envoies travailler, après tout, il ne s'agit jamais que de travailler. Là, on n'est pas prisonnier, c'est un contrat de travail dans une situation où, en plus, il y a du chômage en France, les gens vivent difficilement, donc après tout, travailler pour travailler. Donc si t'envoies ton fils, je récupère le mien, donc fais un effort, quoi. Donc on imagine un peu l'ambiance. Donc ça s'est fait de manière un peu, plus ou moins volontaire. Voyant que le dispositif, curieusement, ne fonctionnait pas, ils en sont arrivés à être un petit peu plus coercitifs et à mobiliser des classes d'âge en disant, là, il n'y a plus le choix. Et on demandait aux chefs d'entreprise de désigner un certain nombre de leurs employés pour les envoyer travailler en Allemagne, dans l'agriculture.
Et ça restait un contrat de travail.
Alors,
plus ou moins.
Ils étaient censés, alors la liberté était quand même très, très relative. Ils étaient censés avoir des permissions, mais très vite, là aussi, on s'est rendu compte que les premiers qui partaient en permission, ils ne revenaient pas. C'est bizarre, parce que ils y avaient goûté, oui. Ils savaient ce qu'ils allaient retrouver et ils ne voulaient pas. Donc, ils devenaient réfractaires au STO, ils se cachaient, alors de différentes
et puis,
façons.
Et puis, d'abord, effectivement, ils n'avaient pas forcément envie d'y retourner. Et puis aussi, il y en a qui se sont engagés. Il y a aussi un début de résistance, les premiers...
Alors ça se met en place très, très progressivement.
Très progressivement, mais il y a quand même eu qui ont hésité.
Donc il a fallu être de plus en plus autoritaire pour trouver des volontaires. Et puis surtout, ceux qui étaient déjà, les permissions ont été sucrées. C'est-à-dire qu'il y en a qui n'en ont jamais eu. Donc qui sont partis en STO au printemps 43 et qui n'en sont jamais rentrés jusqu'à fin mai 45,
voire plus.
Voire plus.
Quand ils étaient en Poméranie
oui.
ou
ouais.
à frontière russe, ils ont certains ont mis un an. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Donc ça a été très long et très très difficile effectivement.
Alors les villages sont effectivement très chahutés puisque les hommes sont partis ou sont prisonniers, sont pas là. Certains restent, mais bon, au milieu de tout ça, il y a des réfugiés politiques ou pas. Les premières vagues économiques, après les réfugiés politiques, donc en particulier, bah, par exemple. Alors, il y a les Espagnols, d'où l'arrivée de Camille.
Oui, oui, oui. Alors, c'est un peu le jeu des chaises musicales, parce que, bon, donc, on a compris, les Allemands ont envoyé leurs jeunes hommes au front, il leur faut des travailleurs, voilà, on les prend en France, mais du coup, en France, ben, qu'est-ce qui se passe dans les fermes et dans les usines? Il n'y a plus personne non plus. Enfin, il y a moins de monde, en tout cas. Donc, les femmes, comme pendant la Première Guerre mondiale, vont se mobiliser, mais il manque quand même de la main-d'œuvre et des bras. Et il se trouve que dans les différents camps d'internement dans lesquels on enferme, alors il y a les réfugiés espagnols, mais il y avait aussi des Italiens, il y avait aussi des réfugiés allemands, autrichiens qui avaient fui le nazisme, et puis des juifs. Donc tous ces gens qui sont enfermés, que l'on nourrit très mal, que l'on héberge très mal, mais enfin quand même, si on pouvait rentabiliser leur présence, ça serait encore mieux. Donc on se dit, ben, c'est eux qu'on va faire travailler de manière tout aussi contrainte finalement que nos jeunes Français. En Allemagne.
Oui, tout le monde était un peu contraint à cette période-là, faut reconnaître.
Oui, oui, voilà. Il y avait assez peu de volontariat réel.
Donc effectivement, parmi les personnages de votre roman, il y a Camille, donc, qui est un réfugié politique plutôt, et qui se trouve engagé pleinement dans la ferme où vit Marguerite. Et puis il y a une jeune fille qui arrive, enfin une petite fille,
oui, c'est une enfant.
Petite fille, ouais. elle est très jeune. Elle a à peu près l'âge de Marguerite, hein, peut-être un peu moins.
Eva, elle est un petit peu plus jeune aussi, ouais. Ouais, ouais. Oui, donc Camille, au départ, il a fui au moment de la retirada. Et puis, donc, à partir de ces camps dans le Roussillon, ensuite, les travailleurs vont être disséminés dans tout le sud de la France. Parce que, bon, alors là, cette histoire, je l'ai située en Creuse, parce que moi, je l'ai découverte en Creuse, mais elle aurait pu avoir lieu en Dordogne, dans l'Ariège, dans le Gers. Voilà, il y a eu plein de poches de résistance dans lesquelles les réfugiés espagnols ont joué un rôle.
C'est intéressant que vous l'ayez situé dans la Creuse, parce que justement on pense pas de prime abord à la Creuse.
Oui.
Le Gers, on commence à voir un peu toute la côte, Argelès, les Milles, c'est bien documenté, c'est bien même mis en valeur. Par contre, c'est vrai que la Creuse, on n'y avait pas systématiquement pensé.
On le sait moins, oui.
Donc ça, c'est vrai que c'était intéressant. Le personnage d'Eva va nous faire aussi prendre conscience que c'est pas totalement nouveau, effectivement, la traque des Juifs, mais comment elle se produit aussi à la campagne.
Oui, alors là, c'était le cas particulier des enfants qui parfois donc étaient séparés de leurs parents. Donc là, la petite Eva, elle était auprès de l'organisme qui s'occupait des enfants, l'OSE, et qui essayait tant bien que mal, au fur et à mesure que les lois étaient de plus en plus restrictives, ciblées sur les personnes juives, et où le gouvernement de Vichy montrait de plus en plus de zèle pour expédier des juifs vers l'Allemagne, où on pouvait se douter un petit peu de ce qui allait leur arriver. Donc il y a des réseaux qui se mettent en place pour essayer de sauver ces enfants-là. Donc là, de Limoges, ben, il y a un réseau qui va faire passer la petite Eva et quelques enfants par le Limousin, la Creuse, notamment Crau, et de là, ils étaient évacués vers la Suisse. Donc il y en a quelques-uns qu'on a réussi à sauver comme ça.
Mais vous faites effectivement état de ceux qui n'ont pas pu être sauvés.
Aussi.
Et ça représente quand même beaucoup de gens. C'est bien aussi que vous ayez introduit ces chiffres et à travers le personnage d'Eva, on peut s'identifier un petit peu. Mais il y a aussi tout le contexte qui est quand même impressionnant aussi pour une zone où a priori, il n'y avait pas non plus forcément tant de gens que ça.
Oui, alors là, c'est l'avantage, j'ai envie de dire, de la structure que j'ai choisie, où on est aujourd'hui, et donc l'ancêtre raconte son expérience, et la jeune fille aujourd'hui lui pose des questions parce que ben, on a le recul. Donc aujourd'hui, on a la fin de l'histoire, on a les bilans, on a les résultats des recherches qui ont été établies sur ces époques-là. Donc Capucine, bon, ben, compulse les coupons de presse qu'a mis de côté Marguerite, mais Marguerite ben, qui a suivi aussi les actualités et la manière dont ensuite l'histoire a été racontée, bon, ben, on a le bilan chiffré, effectivement, des morts, des déportés, etc.
Ce qui est intéressant dans votre écriture, dans votre roman, c'est la manière dont Marguerite, bon, le temps a passé, hein, donc il y a encore quelques petites pointes de jalousie chez elle, ou bon, écoutez un peu des fois
limite mesquin,
un peu vachard, ouais, mesquin, ouais. Un petit peu, ouais, j'allais le dire, mais bon, un petit peu.
Oui.
Mais en même temps, elle a quand même aussi 80 ans de recul par rapport à tout ça. Et elle essaye vraiment de ne pas introduire de manichéisme, quoi. C'est-à-dire, effectivement, Eva va être dénoncée, mais bon, bah, la personne qui l'a dénoncée était dans une telle situation.
Était sous la pression, ouais.
Qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre, quoi, quelque part.
Et qui elle-même
et
avait été dénoncée aussi.
Aussi, ouais. Et donc... Vous arpentez bien cette zone grise, en fait, qui est la zone que je trouve on commence à découvrir un peu maintenant. On a fonctionné beaucoup avec des noirs et blancs après la guerre.
Oui, les gentils, les méchants.
Il y avait les gentils, les méchants, les collabos purs et durs, mais on n'a pas tellement évoqué les ultras et on n'a pas évoqué tellement non plus les...
Bah, ceux qui étaient dans l'entre-deux, voilà, oui, voilà, qui subissaient.
Qui subissaient, puis qui ne savaient pas forcément. C'est facile avec le... Maintenant, quand on connaît la fin de l'histoire, c'est facile de distribuer des médailles.
Et oui. Mais et oui, parce qu'en fait, ces résistants...
Coup,
alors là encore, ça va faire écho à un vocabulaire qui est utilisé aujourd'hui. Ces maquis de résistants, alors au départ, ils n'étaient pas forcément si bien vus que ça par De Gaulle depuis l'Angleterre, qui voulait une armée professionnelle, structurée, etc. Et là, bon, on avait des groupuscules un peu incontrôlables. Alors, on demandait à les armées, mais enfin, on ne savait pas trop ce qu'ils allaient en faire. Et puis, bon, alors, en plus, il y avait des communistes quand même, beaucoup, hein, dans le lot, faut le dire. Et puis, le gouvernement en place les qualifiait de terroristes. Donc ça aussi, ça fait, voilà, ça résonne un petit peu aujourd'hui dans nos oreilles. Dès qu'il y a des gens qui résistent et qui adoptent des attitudes antifascistes, bon, c'est forcément des terroristes.
D'ailleurs, vous faites bien état de la propagande qui était présente et qui martelait
et oui.
Matin, midi et soir.
Oui.
La bonne parole vichysoise.
Donc, pour les gens du commun, on va dire, hein, c'est-à-dire peut-être vous et moi, si ça nous arrivait aujourd'hui, on voit toutes ces forces à l'œuvre et y a des actions, ça se passe la nuit, il y a des explosions, des sabotages, etc. Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Ils sont un petit peu inquiétants On ne voit pas tout de suite en eux les héros qu'on voit aujourd'hui. Donc, pendant longtemps pour la population, ça ne devait pas être aussi évident que ça de se situer, de dire est-ce que je leur apporte un soutien, est-ce que je ferme ma bouche si on me pose des questions, ou est-ce que ça serait conforme à un esprit patriotique que de raconter ce qui se passe exactement.
Que d'aller dénoncer. Marguerite, d'ailleurs, donc il y a 16 ans à l'époque, est un peu perdue. On lui dit pas tout, et forcément, on lui dit pas tout parce que ça
c'est
pourrait être dangereux.
C'est une
aussi, manière
oui.
de la protéger. Dans sa ferme, on est clairement pour la résistance et pour la protection justement des étrangers politiques ou des juifs.
Oui, ça va de soi, il y a un sens de l'accueil qui
voilà,
fait que on ouvre ses
pas.
Portes à ceux qui sont persécutés. Oui.
Mais le personnage de Marguerite nous permet d'aborder le rôle des femmes, en fait, dans cette résistance, puisque les femmes font tourner la ferme en l'absence des hommes. Donc déjà, ça, c'est un rôle très positif et très actif dans le maintien de la France. Mais elles servent aussi d'agents de liaison, de propagandistes. Adèle, qui est rédactrice d'un journal clandestin, et voire de résistance à part entière. Et on a tendance à les, on a eu tendance un peu à les oublier, à les occulter. Et peut-être parce que beaucoup comme Marguerite, elle ne tire pas de gloire de son engagement. Et pourtant, il est réel et exemplaire d'un grand nombre de jeunes femmes.
Alors, il y avait plein de manières, en fait, de résister, même sans en avoir conscience. Donc, à partir du moment où on porte à manger à ceux qui sont réfugiés au cœur de la forêt, dans leur cache, on fait acte de résistance et de soutien. Quand on transporte en cachette des messages, on fait acte de résistance. Quand on distribue, effectivement, comme Adèle, des petits tracts avec des messages qui appellent à telle ou telle action ou à une certaine passivité, à la résistance, etc. On fait acte de résistance dans les villes. L'infirmière de l'hôpital qui dérobe du mercure, elle fait acte de résistance et ainsi de suite.
Bien sûr, ou même le gendarme qui a un rôle particulièrement mal placé, qui est très inconfortable. Bon, bah, il omet de dire que la famille elle n'est pas composée de 5
personnes.
Oui, ça
peut être une résistance par omission, oui, effectivement. Donc chacun était placé face à sa conscience, à ses valeurs, à ce en quoi il croyait et amené à se positionner, donc soit de manière active, soit de manière passive, comme le faisaient les travailleurs du STO les usines, quand ils se mutilaient, quand ils ralentissaient les cadences.
Ou quand ils sabotaient, les machines, par exemple. Alors, le personnage de Camille est particulièrement dramatique, puisqu'il fuit la guerre d'Espagne, qu'il se retrouve dans un camp d'internement et s'engage dans la résistance, puis finira peut-être, on ne sait pas. Ce parcours est loin d'être unique, hein, puisque les réfugiés de la République espagnole ont été nombreux à participer à la libération de la France. On peut penser à la Nueve, la division qui regroupait les Espagnols. Et ils avaient nommé leur char selon les batailles de Teruel, Guadalajara, etc. Son portrait est à peine esquissé, en fait. Et c'est presque un fantôme. Et j'ai trouvé que c'était... une bonne manière de nous montrer aussi le passage du temps sur le personnage de Marguerite. À la fois, ce passé n'est jamais passé, et en même temps, ce personnage, quelque part, s'estompe.
Oui, alors en l'évoquant sous les questions de Capucine, en ressortant ses documents, ses photos, dont on imagine qu'elles sont restées enfouies dans un tiroir pendant des décennies, Elle le fait ressurgir un petit peu, mais comme une silhouette, comme une ombre. Et pourtant, les émotions sont toujours vivaces. Là. Voilà.
Alors Camille est arrivé. Il s'est échappé du camp. Il se retrouve dans cette ferme et il va s'engager dans la résistance.
Aux côtés du frère Armand. Et de Pierre.
Et c'est peut-être Pierre qui est l'amoureux transi de Marguerite. C'est peut-être donc le moment d'introduire notre deuxième pause musicale, ce qui est donc « Ceux du maquis », interprété par Memoria Vivit.
Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne. Et pour mieux servir le pays, ils ont pris le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France. Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage. Bravant Laval, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Ils ont bravé tous les périls dans leur âpre lutte secrète, sans souliers, sans pain, sans fusil, descendant de leur retraite, souffrant et luttant jour et nuit, nos amis du maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont sens du maquis, combattant pour la France. Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage. Bravant Laval, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage. Ce sens du maquis, ceux de la résistance. Ce sens du maquis, jeunesse du pays. Dès le jour du débarquement, dès l'aurore de la victoire, ils ont frappé les Allemands en plein jour, en pleine gloire, se joignant à tous leurs amis, nos amis du maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont les épétis, c'est l'armée de la France. Contre le nazi, des miliciens sans discours et sans bravade, se battant dur, se battant bien, des forêts aux barricades. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays.
Parole d'auteur.
Nous sommes aujourd'hui avec Patricia Vigier autour de son roman « Il s'appelait Camille » qui est publié aux éditions BOD. Nous venons d'écouter une chanson du Maquis, ceux du Maquis, interprétée par Memoria Vivit. Vous vouliez nous dire quelques mots à propos de cette chanson ?
Oui, alors cette chanson, donc, elle a été composée à Londres. Et elle passait sur la BBC dans l'émission « Les Français parlent aux Français » à partir de 1944. Et elle évoque justement ces réfractaires au STO et ces jeunes qui rejoignaient les rangs du maquis qui, on l'a dit, pouvaient inquiéter un petit peu les gens en France, dans les campagnes ou même dans les villes. Donc elle vise à mieux faire connaître leur action et à jeter la lumière sur leur dénuement. Et susciter des engagements. Parce que quand même, au bout d'un moment, ces forces vives, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de les structurer, de les armer et de les allier au grand mouvement de libération qui était à l'œuvre sous l'égide du général de Gaulle.
Oui, plus officiel, disons.
Voilà, et donc contrer la propagande de Radio Paris qui, elle, fustigeait les terroristes.
Alors, venons-en peut-être à parler un petit peu de la forme proprement dite de votre roman. Alors, a priori s'adressait peut-être au départ plus à des jeunes, mais qui, bien évidemment, est à destination de tous. Ça pourrait être une longue nouvelle, ou novella, comme disent les anglophones, parce qu'en fait c'est un roman très court et très dense. Moi, ça m'a un petit peu évoqué aussi le texte d'une pièce de théâtre. En fait, il s'agit d'un dialogue, mais d'un dialogue un dialogue à la Socrate, c'est-à-dire que Capucine donne des petites indications, relance le discours, etc. Mais en gros, c'est quand même principalement un monologue, le monologue de Marguerite, qui se parle souvent d'ailleurs presque à elle-même, à haute voix, mais un petit peu à elle-même. Et il y a quelques phrases descriptives qui fonctionnent un peu comme des didascalies. Est-ce que vous avez été tenté, je crois, des fois, ou vous avez eu parfois des mises en scène un petit peu de ce texte ?
Alors, le regard théâtral sur les textes que j'écris me vient toujours de l'extérieur. En fait, moi, j'en ai pas forcément conscience. J'aime bien écrire les dialogues. Il semblerait donc que je les écrive d'une manière qui soit propice à la lecture, à la mise en voix orale pour le théâtre. Donc, effectivement, oui, j'avais une nouvelle qui avait fait l'objet d'une lecture. Pour une radio d'ailleurs, c'était au printemps 2024 pour le Congrès national de la Ligue des droits de l'homme. C'était au sujet du mal logement. Et oui, il pourrait y avoir des projets de lecture publique de certains textes. Sur la longueur de ce roman, ayant travaillé pendant longtemps avec les adolescents en tant que professeur documentaliste, donc je trouvais qu'il était difficile de trouver des romans qui répondent à la fois à la curiosité, à l'envie de certains élèves petits lecteurs et à justement leur petit souffle, hein, si on peut parler comme ça en termes d'endurance, par rapport à des romans trop gros qui les découragent. Donc j'essaie en général d'écrire des romans qui vont pouvoir concerner aussi ces lecteurs-là, ces jeunes qui ne sont pas réfractaires à la lecture, contrairement à ce qu'on peut entendre, mais qui ne sont pas... qui n'ont pas un appétit suffisamment développé pour avaler des pavés. Donc,
Des lecteurs petits bras, quelque part.
Voilà, c'est ça. Mais qui sont curieux, qui aiment l'histoire et qui ont envie de s'intéresser à certains sujets. Donc, j'essaie de m'adresser aussi à ceux-là. Et donc, sur le... Oui, donc, la structure, je voulais quelque chose de vivant, de dialogué. Et comme on l'a dit, que l'adolescent qui lit le roman ait vraiment le sentiment que Marguerite lui parle et répond à ses questions, que Capucine se fait le porte-parole de ses questions, parfois naïves, parfois... incongru, mais aussi pour les adultes qui ont vécu alors des événements, alors ceux qui ont vécu la Seconde Guerre, comme dirait l'autre, il n'y en a plus beaucoup, mais d'autres, ça peut être d'autres événements, soient encouragés à raconter, à transmettre ce qu'ils ont vécu, parce que ben là encore, nos jeunes sont curieux et ont besoin qu'on leur raconte cette histoire pour qu'elles ne sombrent pas dans l'oubli.
Donc, quelque part, ce livre est une autorisation que vous donnez à vos lecteurs.
Ouais. D'aller poser des questions.
Que les jeunes n'hésitent pas à y aller et que les anciens n'hésitent pas à raconter.
Ce qu'ils n'ont pas fait pendant longtemps parce que alors leurs enfants, à eux, ne s'y intéressaient pas. Et eux, selon ce qu'ils avaient vécu, ils n'avaient pas forcément envie d'en parler. Puis c'était du passé. On passe à autre chose. Voilà, on va de l'avant.
On s'imagine qu'on passe à autre chose.
Voilà. Et c'est vraiment avec les générations des petits et arrière-petits-enfants que ben là, il y a quand même des questions de la curiosité et qu'on réouvre un peu les classeurs et les pochettes de documents ou la boîte à souvenirs.
Alors, pour le lecteur, ces brèves interruptions du dialogue ou du monologue de Marguerite nous permettent de reprendre notre respiration, parce que c'est vrai que c'est quand même un texte dense.
Oui, puis il y a des passages qui sont, émotionnellement sont plus chargés.
Sont plus chargés. Mmh. Alors, il n'y a pas de... la violence est suggérée. Vous n'êtes pas du tout dans le sensationnel. Tout ça, il y a le passage du temps...
Bah souvent, l'allusif est plus impactant que le descriptif.
Il y a la pudeur aussi de Marguerite qui est respectée. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose qui serait violent, mais il y a quand même des scènes qui peuvent être chargées émotionnellement. Et ces notations nous permettent nous aussi, de reprendre notre respiration. Vous introduisez aussi... une interface poétique à cette violence du récit, un contrepoint, puisque à travers quelques gestes très concrets, Marguerite et Capucine vont récolter des framboises, et des aubergines, font la cuisine, mais se promènent aussi dans la campagne. Donc c'est un roman qui est ancré dans cette réalité creusoise et c'est bien que vous nous précisiez clairement, cette fin d'été, les sensations, les odeurs, etc., qui rétablissent un lien avec le lieu et la nature environnante. Ces espaces aussi de respiration où vous, narrateur omniscient, vous nous mettez un peu le cadre autour en vue. Ça nous permet aussi, ça vous permet de nous présenter les pensées divergentes des deux protagonistes, et de les rétablir un petit peu dans leur, à la fois dans leur, bon, il y a leur complicité, mais aussi leur forme de solitude, leur espace intérieur qui diverge entre Capucine qui découvre la vie et Marguerite qui fait un peu le bilan. C'est vrai qu'il y a l'espace-temps. Et ça mène le lecteur à une réflexion justement sur le temps. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui demeure? Alors, ce qui demeure, la famille probablement, et les liens forts qu'il y a pu avoir. Ce qui est intéressant, les liens forts qui ont été créés avec les absents, puisque Marguerite va finir par se marier. On sait pas, je ne spoile pas grand chose puisque on sait que l'arrière-grand-père c'est René, voilà. Donc qu'est-ce qui a pu faire naître le lien entre René et Marguerite, puisqu'a priori c'était pas forcément, René n'était pas l'un des prétendants de Marguerite. Et pour Camille, c'est peut-être une forme de roman d'apprentissage, en fait. Qu'en pensez-vous?
Pour Camille ou pour Capucine?
Pour Capucine,
oui,
pardon.
Pour Capucine, oui, alors il y a fort à parier qu'effectivement les confidences de sa grand-mère vont la faire grandir d'un seul coup sur pas mal de sujets. Alors les descriptions de la nature, oui, alors c'est la nature qu'on voit aujourd'hui quand on se promène dans le Limousin, dans la Creuse, sur le plateau de Mille Vaches, donc des paysages tout à fait enchanteurs, une nature encore par endroits exubérante et envoûtante. Et avec les confidences de Marguerite, elle les découvre sous un autre jour. C'est-à-dire qu'elle découvre que ce décor, qui ne ressemblait pas exactement à ce qu'il est aujourd'hui aussi, a été le théâtre d'actions beaucoup plus violentes que la douceur qu'il dégage aujourd'hui. Donc à la sensualité des perceptions d'aujourd'hui s'oppose le tragique des événements d'hier.
Ce qui le met en valeur. Et donc, par exemple, justement, cette nature qui a l'air si tranquille, elle est traversée de plein d'abris. Qui
oui,
servait
à
la bergère qui était Marguerite, mais qui ont aussi servi pour les maquisards.
Oui, oui, il y avait des abris sous roches, des cabanes de bergers, des ruines. Quand on se promène là-bas, il y a encore des carcasses de voitures aussi. Hein.
Oui, bien
on
sûr.
On peut les trouver. Donc là, elles sont là depuis 90 ans. C'est assez étonnant.
Donc au détour d'un après-midi de fin d'été, elle devient la dépositaire de la mémoire familiale, Capucine, un nouveau rôle.
Voilà, exactement, là il y a un passage de témoin.
Peut-être que dans quelques années, elle écrira un livre sur cette histoire. C'est un petit peu ce que vous avez fait.
Il y a des chances, oui, voilà. Oui, moi je,
la boucle du livre est bouclée.
Exactement, oui. Je suis l'heureuse dépositaire des archives de ma grand-mère qui sont assez considérables et passionnantes et dans lesquelles il y a matière à beaucoup d'histoires.
Donc vous allez probablement en écrire d'autres. C'est peut-être le moment il nous reste juste quelques minutes. Peut-être c'est le moment de voir justement quels sont vos projets et comment vous... Parce que l'une des questions que je comptais vous poser, c'était la manière dont vous arriviez à concilier à la fois l'écriture et votre travail sans doute prenant de professeur documentariste. Mais vous m'avez dit que vous avez sauté le pas et que maintenant vous étiez écrivaine à plein temps.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est intéressant que vous nous évoquiez un petit peu cette partie-là de votre vie.
Donc effectivement, oui, le métier de professeur documentaliste que j'exerçais pendant 30 ans était très, très prenant. Et comme celui d'autrice aussi, l'est aussi, même s'ils font appel à des compétences similaires parfois, et des destinataires identiques, à un moment donné, donc, j'ai choisi de me consacrer à temps plein à l'écriture et à une autre forme de médiation finalement culturelle, historique, patrimoniale, etc.
Oui, c'est ça, vous intervenez dans
voilà,
les écoles.
Voilà, donc je fais beaucoup de rencontres dans les écoles, les collèges, les lycées autour de mes romans, j'anime des ateliers d'écriture. Et donc ça me permet de rester en contact avec ce public adolescent que j'affectionne particulièrement, mais en... Voilà.
En ayant plus de fluidité, peut-être
Surtout plus de temps à consacrer aux recherches nécessaires pour écrire certaines histoires, pour écrire tout court, pour chercher des éditeurs, etc.
Et donc, par exemple, quels sont vos projets à l'heure actuelle? C'est possible d'en parler ou...
Là, il y a pas, oui, il y a un projet qui est en train de d'émerger justement parce que donc ces fameuses archives, alors que je connaissais, que j'avais déjà vues. Bon, là maintenant, j'en dispose pleinement, donc je peux les regarder, les dépouiller plus en détail. Donc il y a quelque chose, voilà, qui est une idée qui est en train de germer et qui va me ramener à la Seconde Guerre mondiale et à ces personnages qui n'ont pas encore tout dit. Alors ça sera pas les mêmes, mais là ça sera sans doute en Gironde. L'histoire se passera en Gironde et voilà, on va retrouver on va retrouver des réfugiés espagnols, on va retrouver
mais là peut-être que vous prendrez à la fois vous aurez peut-être plus à la fois plus de temps aussi. Est-ce que ça s'adressera toujours à un public jeune ou est-ce que vous avez l'intention de d'élargir aussi
encore
votre public?
J'ai pas encore effectivement choisi le public, c'est qui est une question importante sur la manière dont on façonne les personnages et l'angle
voilà,
que l'on aborde et la structure et
ça a une incidence
ça a
énorme.
Une incidence réelle, oui. Oui. Oui, oui. Donc ça c'est pas encore tranché, voilà. Pour l'instant, je défriche le terrain.
Et puis aussi, effectivement, le niveau d'investissement littéraire n'est pas forcément le même.
Alors,
selon les publics, selon la typologie du livre, si c'est juste si c'est un roman purement historique ou si vous
alors le niveau des recherches, alors lui il est le même, ne serait-ce que parce
bien
que
sûr.
Les questions me passionnent, donc j'en fais toujours 30 fois plus que ce qui est nécessaire et je suis obligée de me gourmander pour m'arrêter, mais bon voilà, donc ça je me dis toujours ce plaisir personne me le retirera, c'est gagné. Bon, cela dit, il faut quand même se discipliner un petit peu. Après, sur ce qui est l'investissement littéraire, il y a des moments où c'est plus difficile d'écrire pour un public jeune que pour des, que pour des adultes, parce que ça oblige à questionner chaque phrase, chaque tournure, chaque mot choisi au niveau du vocabulaire, etc.
Donc, il me reste à vous remercier. Donc.
C'est moi qui vous remercie beaucoup
Patricia
de m'avoir donné l'occasion de remettre la lumière sur il s'appelait Camille puisque 1936 début de la guerre d'Espagne
on se repenche
sur ce destin et sur le combat antifasciste de ces réfugiés qui ont fui l'Espagne mais qui ont continué leur engagement une fois arrivés en France. Et sans doute cet engagement reste-t-il d'actualité.
En effet, je pense que la guerre, hélas, redevient d'actualité. Si tant est qu'elle ait cessé. Donc, je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Merci à Jonathan qui nous guide dans toute cette émission, dans toute cette promenade à travers le Limousin. Vous pouvez retrouver, chers auditeurs, cette émission sur le site de Radio Présence.